From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake
City. Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon.
Is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency.
Henry B. Eyring, président, conseiller dans la première résidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters, we welcome you.
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la quatrième session de la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations et donnons notre bénédiction aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assiste à cette conférence ce matin. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg avec Andrew Unsworth et Clay Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Allons avec foi » et interprétera maintenant « Let Zion in her beauty rise ». Ensuite, Stephen E. Snow des 70 fera la prière d'ouverture.
Thank you. Our Father in heaven.
Notre cher Père Céleste, en ce magnifique jour de sabbat, en tant qu'amis, nous sommes reconnaissants de cette occasion que nous avons d'assister à la conférence générale. Nous sommes reconnaissants pour la technologie qui nous permet de nous réunir à travers le monde et nous prions afin que nous puissions être édifiés à travers cette expérience. Nous prions également afin que nous puissions nous engager à mettre en œuvre ce que nous entendrons aujourd'hui. Nous prions également afin que nous puissions avoir la force de servir nos amis, nos familles, et cherchions à être meilleurs chaque jour. Nous te sommes reconnaissants pour les personnes qui vont nous enseigner, pour la musique et toutes les personnes qui vont nous édifier aujourd'hui. Nous te prions afin que l'Esprit puisse nous enseigner et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons
maintenant le plaisir d'écouter Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence. Le chœur chantera ensuite « Viens et suis-moi ». Après ce chant, nous entendrons Nell L. Andersen du Collège des Douze Apôtres. Ensuite, Rosemary Wixom, présidente générale de la primaire, s'adressera à nous. J'ai dans mon bureau un tableau que j'aime beaucoup, intitulé « Accès à la lumière ». Il est l'œuvre de l'un de mes amis, le peintre danois Johan Bentin, qui a été le premier président du Pieu de Copenhague au Danemark. Le tableau représente une pièce sombre avec une porte ouverte d'où brille la lumière. Je trouve intéressant que la lumière venant de la porte n'illumine pas toute la pièce, mais seulement l'espace devant la porte. Pour moi, les ténèbres et la lumière dans ce tableau sont une métaphore de la vie. Cela fait partie de notre condition d'être humain de nous sentir parfois comme environnés de ténèbres. Il se peut que nous ayons perdu un être cher, qu'un enfant se soit égaré, que nous ayons reçu un diagnostic médical inquiétant, que nous rencontrions des problèmes professionnels et soyons écrasés par le doute ou la peur, ou bien que nous nous sentions seuls et mal aimés. Mais même si nous nous sentons dépassés par notre situation actuelle, Dieu promet l'espérance de sa lumière. Il promet d'illuminer le chemin devant nous et de nous montrer comment sortir des ténèbres. Je vais vous parler d'une femme qui a grandi dans une pièce plongée dans les ténèbres. Je vais l'appeler Jeanne. À partir de l'âge de 3 ans, Jeanne a été régulièrement battue, rabaissée et victime de sévices. Elle a subi des menaces et des moqueries. Elle s'éveillait chaque matin, ne sachant pas si elle survivrait jusqu'au lendemain. Les gens qui auraient dû la protéger étaient ceux qui la torturaient ou permettaient qu'elle continue d'être maltraitée. Pour se protéger, Jeanne a appris à ne plus avoir de sentiments. N'ayant aucun espoir d'être secourue, elle s'endurcit face à l'horreur de la réalité qui était la sienne. Il n'y avait aucune lumière dans son monde. Elle se résigna donc à vivre dans les ténèbres, avec une insensibilité qui ne peut découler que du contact constant et implacable avec le mal. Elle accepta le fait que chaque instant pouvait être le dernier de sa vie. Puis, à l'âge de 18 ans, elle découvrit l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La joie et l'espérance de l'Évangile rétabli pénétrèrent son cœur et elle accepta l'invitation au baptême. Pour la première fois, la lumière entrait dans sa vie et elle vit un chemin lumineux devant elle. Elle quitta les ténèbres de son monde et elle décida d'aller dans une école loin de chez elle et de son agresseur. Elle se sentait enfin libérée d'un environnement de ténèbres et de mal, libre de jouir de la douce paix et de la guérison miraculeuse du Sauveur. Cependant, des années plus tard, après la mort de l'auteur des sévices qu'elle avait subis, les événements horribles de sa jeunesse revinrent la perturber. Une tristesse et une colère immenses menacèrent de détruire la lumière merveilleuse qu'elle avait trouvée dans l'Évangile. Elle se rendit compte que, si elle permettait à ses ténèbres de la ronger, son tortionnaire serait finalement vainqueur. Elle demanda une aide psychologique et médicale et elle commença à se rendre compte que, pour elle, la meilleure façon de guérir était de comprendre et d'accepter que les ténèbres existent, mais de ne pas y demeurer. Car, comme elle le savait maintenant, la lumière existe aussi, et c'est là qu'elle décida de demeurer. Étant donné son lourd passé, Jeanne aurait facilement pu devenir vindicative, venimeuse, ou même violente. Mais ce ne fut pas le cas. Elle résista à la tentation de répandre les ténèbres en se laissant ronger par la colère, les sentiments blessés ou le cynisme. Au lieu de cela, elle s'accrocha fermement à l'espérance qu'avec l'aide de Dieu, elle pouvait guérir. Elle décida de rayonner de lumière et de consacrer sa vie à aider les autres. Cette décision lui permit de laisser le passé derrière elle et d'avoir accès à un avenir glorieux. Elle devint institutrice et aujourd'hui, des décennies plus tard, son amour a influencé la vie de centaines d'enfants en les aidant à savoir qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont importants. Elle est devenue un défenseur infatigable des faibles, des victimes et des découragés. Elle édifie, fortifie et inspire tout le monde autour d'elle. Jeanne a appris que la guérison survient quand nous nous éloignons des ténèbres et que nous nous dirigeons vers l'espérance d'une lumière plus brillante. C'est en exerçant de manière pratique la foi, l'espérance et la charité qu'elle a non seulement transformé sa propre vie, mais aussi qu'elle a eu pour toujours une influence bénéfique sur celle de beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Peut-être y en a-t-il parmi vous qui ont le sentiment que les ténèbres les envahissent. Vous vous sentez peut-être accablé par le fardeau des soucis, de la peur ou du doute. À votre intention, et pour nous tous, je répète une vérité indéniable et merveilleuse. La lumière de Dieu est réelle. Elle est accessible à tous. Elle donne la vie à tout. Elle a le pouvoir d'adoucir la souffrance de la blessure la plus profonde. Elle peut être un baume guérisseur pour la solitude et la maladie de notre âme. Dans les sillons du désespoir, elle peut planter les semences d'une espérance plus radieuse. Elle peut illuminer les vallées du chagrin les plus profondes. Elle peut éclairer le chemin devant nous et nous guider à travers la nuit la plus noire vers la promesse d'une aube nouvelle. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui donne la lumière à tout homme qui vient au monde. Néanmoins, la lumière spirituelle est rarement donnée à ceux qui se contentent de rester assis dans les ténèbres, attendant que quelqu'un actionne un interrupteur. Il faut un acte de foi pour ouvrir nos yeux à la lumière du Christ. La lumière spirituelle ne peut être discernée par des yeux charnels. Jésus-Christ lui-même a enseigné « Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne la comprennent pas. » Car l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, comment ouvrons-nous les yeux à l'espérance de la lumière de Dieu? Premièrement, commencez là où vous êtes. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour recevoir les bénédictions et les dons de notre Père Céleste? Nous n'avons pas à attendre de franchir la ligne d'arrivée pour recevoir les bénédictions de Dieu. En fait, les cieux commencent à s'ouvrir et les bénédictions célestes commencent à se distiller sur nous dès que nous faisons les premiers pas vers la lumière. L'endroit parfait pour commencer est exactement là où vous êtes en ce moment. Peu importe que vous pensiez ne pas être à la hauteur ou que vous estimiez être loin derrière les autres, au moment même où vous commencerez à chercher notre Père Céleste, à cet instant précis, l'espérance de sa lumière commencera à s'éveiller, à vivifier et à ennoblir votre âme. Les ténèbres peuvent ne pas se dissiper toutes à la fois, immédiatement, mais aussi sûrement que la nuit cède toujours la place à l'aurore, la lumière apparaîtra. Deuxièmement, tournez votre cœur vers le Seigneur. Élevez votre âme en prière et expliquez à votre Père Céleste ce que vous ressentez. Reconnaissez vos imperfections, déversez votre cœur et exprimez votre reconnaissance. Exprimez-lui les épreuves que vous rencontrez. Implorez-le au nom du Christ pour recevoir de la force et du soutien. Demandez-lui d'ouvrir vos oreilles afin que vous entendiez sa voix. Demandez-lui d'ouvrir vos yeux afin que vous voyiez sa lumière. Troisièmement, marchez dans la lumière. Votre Père Céleste sait que vous ferez des erreurs. Il sait que vous trébucherez, peut-être bien des fois. Cela l'attriste, mais il vous aime. Il ne désire pas briser votre esprit. Au contraire, il désire que vous vous releviez et deveniez la personne que vous étiez destiné à être. À cette fin, il a envoyé son Fils pour éclairer le chemin et nous montrer comment passer en toute sécurité au travers des pierres d'achoppement placées sur notre route. Il nous a donné l'Évangile qui nous enseigne le chemin du disciple. Il nous enseigne les choses que nous devons savoir, que nous devons savoir faire et être pour marcher dans sa lumière en suivant les pas de son Fils bien-aimé. Oui, nous ferons des erreurs, oui, nous faiblirons. Mais si nous efforçons d'accroître notre amour pour Dieu et d'aimer notre prochain, la lumière de l'Évangile nous entourera et nous élèvera. Les ténèbres se dissiperont certainement, car elles ne peuvent exister en présence de la lumière. À mesure que nous nous approcherons de Dieu, il se rapprochera de nous. Jour après jour, l'espérance de la lumière divine grandira en nous, de plus en plus brillante, jusqu'au jour parfait. Vous tous qui avez l'impression de marcher dans les ténèbres, je vous invite à faire confiance à cette promesse certaine que le Sauveur de l'humanité a faite. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a quelques années, Harriet, ma femme et moi avons vécu une expérience mémorable dans laquelle nous avons vu la réalisation de cette promesse. Nous étions en Afrique occidentale, endroit magnifique du monde où l'Église progresse et où les saints des derniers jours sont charmants. Cependant, l'Afrique occidentale rencontre beaucoup de défis. En particulier, la pauvreté que j'y ai vue m'a beaucoup affligé. Dans les villes, le chômage est élevé et les familles peinent souvent à subvenir à leurs besoins quotidiens et à leur sécurité. Cela m'a brisé le cœur de savoir que beaucoup de nos précieux membres de l'Église vivent dans un tel dénuement. Mais j'ai aussi appris que ces bons membres s'entraident de façon à ce que personne ne meure de faim. Nous sommes enfin arrivés à l'un de nos lieux de culte près d'une grande ville. Mais au lieu de trouver un peuple accablé et plongé dans les ténèbres, nous avons découvert un peuple joyeux qui était rayonnant de lumière. Le bonheur qu'ils ressentaient pour l'Évangile était contagieux et il nous a encouragés. Nous nous sommes sentis petits devant l'amour qu'il nous a exprimé. Les gens avaient un sourire sincère et contagieux. Je me rappelle m'être demandé à ce moment-là s'il pouvait y avoir un peuple plus heureux quelque part dans le monde. bien qu'entouré de difficultés et d'épreuves, ces braves saints étaient remplis de lumière. La réunion a commencé et je me suis mis à parler. Mais il y a bientôt eu une panne d'électricité dans le bâtiment et nous étions complètement dans le noir. Pendant un moment, j'ai eu peine à voir qui que ce soit dans l'assemblée. Mais je voyais et je ressentais les beaux sourires éclatants de nos membres. Oh, comme j'ai aimé être en compagnie de ces personnes merveilleuses. Comme il continuait à faire noir dans la salle de culte, je me suis assis à côté de ma femme et j'ai attendu que l'électricité revienne. Pendant que nous attendions, quelque chose de remarquable s'est produit. Quelques voix ont commencé à chanter un des cantiques du rétablissement. Puis d'autres se sont joints à elles, puis d'autres encore. Bientôt, un chœur merveilleux a rempli la salle de culte. Ces membres de l'Église n'avaient pas besoin de livres de cantiques. Ils connaissaient chaque mot de chaque cantique qu'ils chantaient. Ils ont chanté un chant après l'autre, avec une énergie et un esprit qui m'ont profondément ému. L'éclairage a fini par revenir et il a baigné la pièce de lumière. Harriet et moi, nous nous sommes regardés, les larmes aux yeux. Au milieu de ténèbres profondes, ces beaux saints, ces saints merveilleux, avaient empli de lumière ce bâtiment de l'Église, ainsi que notre âme. Cela a été pour nous un moment profondément émouvant, car Harriet et moi n'oublierons jamais. Oui, de temps en temps, les ténèbres peuvent sembler affecter notre vie, ou même l'envelopper. Parfois la nuit qui nous environne paraîtra oppressante, décourageante et effrayante. Je suis profondément affligé des nombreuses douleurs que certains d'entre vous doivent affronter, de la solitude pénible et des craintes éprouvantes que vous vivez. Néanmoins, je témoigne que notre espérance vivante est en Christ Jésus. Il est l'accès véritable, pur et puissant à la lumière divine. Je témoigne qu'avec le Christ, les ténèbres ne peuvent réussir. Les ténèbres ne remporteront pas la victoire sur la lumière du Christ. Je témoigne que les ténèbres ne peuvent résister à la lumière éclatante du Fils du Dieu vivant. J'invite chacun de vous à lui ouvrir son cœur. Cherchez-le par l'étude et la prière. Venez à son Église. Apprenez de lui et de son Évangile. Participez activement. Aidez-vous mutuellement et servez joyeusement notre Dieu. Frères et sœurs, même après la nuit la plus sombre, le Sauveur du monde vous conduira vers une aurore graduelle, douce et lumineuse, qui se lèvera assurément en vous. En marchant vers l'espérance de la lumière de Dieu, vous découvrirez la compassion, l'amour et la bonté d'un Père céleste aimant, en qui il n'y a point de ténèbres. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
La vie de Jésus-Christ dans la condition mortelle a-t-il déjà donné de miracles? Une mère vierge, une nouvelle étoile, des anges apparaissant des bergers, des aveugles qui retrouvent la vue, des paralytiques qui marchent, des anges à Gethsémané au tombeau, et le plus grand des miracles, sa glorieuse résurrection. Pouvez-vous imaginer la scène des 11 apôtres sur la montagne près de la Galilée, lorsque le Seigneur ressuscité est venu à eux et leur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Toutes les nations, par tout le monde, à toute la création, était-ce possible? Jésus leur a assuré, mais ils ont dû se demander si les miracles les suivraient vraiment dans la diffusion de l'Évangile. La foi est venue à bout du doute, et Pierre a levé la voix en disant, « Vous tous qui séjournez à Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Cet homme, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il y eut ce jour-là un déversement indéniable de l'Esprit, et 3000 âmes furent baptisées. Comme l'avait promis Jésus, des signes et des miracles accompagnaient la foi des croyants. Lorsque l'Église de Jésus-Christ fut établie ici-bas, il y a 183 ans, la mission que le Seigneur a donnée à son petit groupe de disciples faisait écho à ses paroles exprimées des siècles auparavant. La voix à l'avertissement ira à tous les peuples, car en vérité, le bruit doit se répandre dans le monde entier et jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les peuples, dans le monde entier, aux extrémités de la terre, était-ce possible? Le Sauveur a rassuré ses saints des derniers jours. Mais pouvait-il prévoir la portée et la destinée de cette œuvre merveilleuse? Ils ont dû se demander si des miracles les accompagneraient vraiment dans la diffusion de l'Évangile. De nouveau, la foi est venue à bout du doute et des milliers ont été baptisés. En Angleterre, Wilfred Woodruff a trouvé toute une communauté qui attendait son arrivée. L'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. Il a baptisé 45 prédicateurs et plusieurs centaines de membres pendant son premier mois passé à la ferme Benbow. Notre époque n'est pas différente. Lorsque Frère Bernard et moi-même étions missionnaires, il y a environ 40 ans, et je peux vous assurer que nous ne sommes pas les plus âgés des anciens missionnaires assis dans les fauteuils rouges, il y en avait 16 000 missionnaires. Nous en avons maintenant 65 000, plus que jamais auparavant, comme l'a dit le président Monson hier. À cette époque, il y avait 562 pieux. Aujourd'hui, il y en a plus de 3 000. À cette époque, nos paroisses et nos branches étaient réparties dans 59 pays. Aujourd'hui, nous avons des assemblées dans 189 des 224 pays et territoires du monde. Nous sommes peu nombreux, comme Néphi l'a prédit. Mais vous et moi sommes les témoins oculaires de l'accomplissement des paroles prophétiques de Daniel. La pierre, qui se détacha sans le secours d'aucune main, remplit toute la terre. Nous vivons une époque formidable de miracles. Il y a 6 mois, lorsque le président Monson a annoncé le changement d'âge pour les jeunes gens et les jeunes filles désirant partir en mission, il y a eu un déversement indéniable de l'esprit. La foi est venue à bout du doute, et des jeunes, garçons et filles, sont allés de l'avant avec foi. Le jeudi suivant la conférence, j'étais chargé de recommander des appels missionnaires à la première présidence. J'étais stupéfait de voir les demandes de jeunes gens de 18 ans et de jeunes filles de 19 ans qui avaient déjà modifié leurs projets. Ils étaient allés chez leur médecin, avaient eu un entretien avec leur évêque et leur président de pieux et ont envoyé leur candidature missionnaire. Tout cela en seulement 5 jours. Des milliers d'autres les ont maintenant rejoints. C'est un miracle. Nous sommes reconnaissants de la foi vivifiante de nos sœurs, du nombre grandissant de missionnaires provenant de tous les pays du monde et du nombre croissant de couples prêts à servir. 58 nouvelles missions ont été annoncées et notre centre de formation missionnaire, Bondé, à Provo, s'est trouvé de façon surprenante un nouveau compagnon à Mexico. Le président Monson a dit « Nous prenons très au sérieux le commandement du Sauveur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cette cause continuera d'aller de l'avant, de changer des vies et d'apporter des bénédictions. Aucune force au monde ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Nous assistons au miracle du Seigneur dont l'Évangile se répand à travers le monde. Frères et sœurs, aussi sûrement que le Seigneur a inspiré davantage de missionnaires à servir, de même, il réveille aussi l'esprit et ouvre le cœur de davantage de bonnes personnes honnêtes pour recevoir ces missionnaires. Vous les connaissez déjà, ou vous allez faire leur connaissance. Elles sont dans votre famille et vivent dans votre voisinage. Elles passent devant vous dans la rue, s'assoient à côté de vous à l'école et vous contactent en ligne. Vous êtes aussi une partie importante de ce miracle qui se déroule. Si vous n'êtes pas missionnaire à plein temps, avec un badge accroché à votre veston, c'est maintenant le moment d'en peindre un sur votre cœur, écrit, comme l'a dit Paul, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et vous, ancien missionnaire, retrouvez votre ancien badge. Ne le portez pas, mais placez-le à un endroit où vous pouvez le voir. Le Seigneur a besoin de vous maintenant, plus que jamais auparavant, comme instrument entre ses mains. Nous avons tous une contribution à apporter à ce miracle. Tous les membres dignes de l'Église ont réfléchi à la façon de faire connaître l'Évangile. Certains le font connaître naturellement, et nous pouvons beaucoup nous inspirer d'eux. Certains ont du mal et se demandent comment faire mieux, en souhaitant que ce sentiment de culpabilité qu'ils ressentent parfois disparaisse. Notre désir de faire connaître l'Évangile nous amène tous à nous agenouiller parce que nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Le président Monson nous a demandé de prier pour les régions où notre influence est limitée et où il ne nous est pas permis de prêcher librement l'Évangile. En priant ensemble avec ferveur, alors le Seigneur ouvrira des portes pour nous. Nous prions aussi pour avoir des occasions de faire connaître l'Évangile. L'apôtre Pierre a dit, « Soyez toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. » Avec la confusion et le trouble qui règne dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas surprenant que moins de gens fréquentent les lieux de culte. Beaucoup désirent se rapprocher de Dieu et mieux comprendre le but de la vie. Mais ils se posent des questions qui n'ont pas de réponse. Beaucoup ont le cœur ouvert à la vérité. Mais comme le prophète Amos l'a dit, ils vont, ça et là, pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouvent pas. Vous pouvez aider à répondre à leurs questions. Lors de vos échanges journaliers, vous pouvez ajouter à leur foi au Christ. Le Sauveur a dit, « Élevez votre lumière afin qu'elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez. » Je vous promets que si vous priez pour savoir avec qui parler, des noms et des visages vous viendront à l'esprit. Les paroles à prononcer vous seront données au moment où vous en aurez besoin. Des occasions s'ouvriront à vous. La foi viendra à bout du doute et le Seigneur vous accordera vos propres miracles. Le Sauveur nous dit comment faire connaître l'Évangile. J'aime l'histoire d'André, qui a demandé « Maître, où demeures-tu ?» Jésus aurait pu répondre en lisant où il vivait. Mais il a dit à André « Venez et voyez. » J'aime à penser que ce que le Sauveur disait, c'était « Venez voir, non seulement où je vis, mais comment je vis. Venez voir qui je suis. Venez ressentir l'Esprit. » Nous ne connaissons pas les détails de cette journée, mais nous savons que lorsqu'André trouva son frère Simon et déclara « Nous avons trouvé le Christ », les personnes qui s'intéressent à ce que nous disons, nous pouvons les inviter, en suivant l'exemple du Sauveur, à venir voir. Certaines accepteront notre invitation, d'autres non. Nous connaissons tous quelqu'un que l'on a invité plusieurs fois avant qu'il accepte une invitation à venir voir. Pensons aussi à ceux qui étaient autrefois avec nous, mais que nous voyons maintenant rarement. Invitons-les à revenir voir encore une fois. Nous respectons le choix de chacun et son calendrier. Le Seigneur a dit que chacun choisisse pour lui-même. Le manque d'intérêt d'une personne ne doit pas influencer les liens d'amitié et d'amour que nous avons avec elle. Que l'invitation soit acceptée ou non, lorsque vous invitez les autres à venir voir, vous ressentirez l'approbation du Seigneur. Et avec cette approbation, vous aurez un surcroît de foi pour faire de nouveau connaître vos croyances. Pour ceux qui utilisent l'Internet et les téléphones mobiles, il y a de nouvelles façons d'inviter les autres à venir voir. Servons-nous-en davantage quotidiennement pour faire connaître notre foi en ligne. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter nous donnent tous des occasions de le faire, de faire connaître l'Évangile. Pour faire connaître l'Évangile, de jeunes de Boston ont lancé plusieurs blogs. Les personnes qui se sont jointes à l'Église ont commencé à apprendre en ligne, puis ont suivi des leçons avec les missionnaires. Cette expérience aussi aidait les jeunes à avoir une plus grande foi pour parler de l'Évangile. L'un des jeunes a dit, ce n'est pas du travail missionnaire, c'est de l'amusement missionnaire. Nous sommes tous concernés. Avec les membres et les missionnaires de la paroisse, nous planifions, nous prions et nous entraidons. Pensez, je vous demande, aux missionnaires à plein temps et priez pour eux. Confiez-leur votre famille et vos amis. Le Seigneur leur fait confiance. Il les a appelés pour assurer les personnes qui le recherchent et leur apporter des bénédictions. Paulo Cretley, président de la mission de Maputo au Mozambique, raconte cette expérience. Au Mozambique, il est courant que les couples vivent ensemble sans être mariés, parce que la tradition africaine exige que l'on fournisse une dot très élevée pour se marier, une dot que la plupart des couples ne peuvent se permettre. Les membres et missionnaires ont réfléchi et prié pour savoir comment aider. La réponse à la prière a été qu'ils avaient insisté sur la loi de chasteté et sur l'importance du mariage et de la famille éternelle. Et tout en aidant les couples à se repentir, à se marier légalement, ils allaient enseigner le bonheur que l'on ne peut connaître qu'en suivant Jésus-Christ. Voici une photo de couples dans deux villes du Mozambique. Mariés le vendredi, ils ont été baptisés le samedi avec leurs enfants plus âgés. Les amis, la famille ont été invités à venir voir. Des centaines sont venues et ont vu. Après le baptême, une sœur a dit, il nous fallait choisir entre suivre les traditions de nos pères ou suivre Jésus-Christ. Nous avons choisi de suivre le Christ. Vous ne vivez peut-être pas au Mozambique, mais à votre façon, selon votre culture, vous pouvez faire connaître l'Évangile établi de Jésus-Christ. Priez votre Père Céleste. C'est son œuvre sacrée. Votre foi grandissant, vous serez guidé dans ce qu'il faut faire. Elle ouvrira les portes, fera tomber les barrages et vous aidera à surmonter les obstacles. Le Seigneur a déclaré, la voix d'avertissement s'adressera à tous les peuples par la bouche des disciples que je me suis choisi. Et nul ne les arrêtera. Je témoigne que la voix du Seigneur s'adressera aux extrémités de la terre, afin que tous ceux qui veulent entendre, entendre. C'est un miracle. C'est un miracle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Un jeune père a récemment appris la mort de sa merveilleuse institutrice de deuxième année. En souvenir d'elle, il écrit « De tous les sentiments et expériences dont je me souviens, le sentiment qui prédomine dans mon esprit est celui de réconfort. Elle m'a peut-être enseigné l'orthographe, la grammaire et les mathématiques, mais chose plus importante encore, elle m'a appris à aimer être un enfant. » Dans sa classe, ce n'était pas grave s'il en écrivait mal un mot par-ci, par-là. « On va y travailler », disait-elle. Ce n'était pas grave si l'on renversait, déchirait ou faisait des taches. « On va arranger ça et on nettoiera », répondait-elle. C'était bien d'essayer, bien de s'étirer, bien de rêver et de connaître les plaisirs qui viennent des petites choses insignifiantes que seuls les enfants trouvent passionnantes. L'une des plus grandes influences qu'on puisse avoir dans ce monde est celle que l'on a sur un enfant. Les croyances et le sentiment de sa valeur de l'enfant se façonnent tôt dans sa vie. Quiconque m'entend a le pouvoir d'augmenter la confiance en soi d'un enfant et sa foi en notre Père Céleste et en Jésus-Christ par les paroles qu'il prononce. Dans le chapitre 5 d'Élaman, nous lisons « Et maintenant, mes fils, souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation. » Ce sont les paroles qu'Élaman a enseignées à ses fils. Et il poursuit « Et ils se souvinrent de ces paroles et ils allèrent enseigner la parole de Dieu parmi tout le peuple. » Bien que les fils d'Élaman aient été persécutés et emprisonnés, les paroles qu'ils avaient entendues ne les ont jamais quittées. Ils ont été protégés et entourés par une colonne de feu. Alors vint une voix disant à leurs ravisseurs, « Repentez-vous et ne cherchez plus à faire périr mes serviteurs. » Ce n'était pas une voix de tonnerre, ni la voix de grand bruit tumultueux. Mais voici, c'était une voix douce, d'une douceur parfaite, comme si cela avait été un chuchotement, et elle perçait jusqu'à l'âme même. Cette voix venue du ciel peut nous apprendre quelque chose. Elle n'était pas criarde, ne grondait pas, n'humiliait pas. C'était une voix douce, d'une douceur parfaite, donnant une directive ferme tout en donnant de l'espoir. La façon dont nous parlons à nos enfants et les paroles que nous utilisons peuvent les encourager, les édifier et fortifier leur foi pour rester sur le chemin qui les ramènera à notre Père Céleste. Ils viennent sur terre prêts à écouter. Une situation où un enfant était à l'écoute s'est produite dans un magasin de tissus. Le magasin était bondé de clients quand il devint évident pour tout le monde qu'une mère était paniquée parce qu'elle avait perdu son petit garçon. Elle commença par crier son nom, « Connor », disait-elle tout en parcourant rapidement le magasin. Au fur et à mesure que le temps passait, sa voix devenait plus forte et plus paniquée. Bientôt, les agents de sécurité furent alertés et tout le monde dans le magasin participa à la recherche de l'enfant. Plusieurs minutes passèrent sans qu'on ne le retrouve. Sa mère était, on comprend, de plus en plus paniquée et hurlait son nom sans cesse. Une cliente, après avoir fait une prière silencieuse, se dit que l'enfant était probablement dans le magasin et avait peut-être peur en entendant sa mère crier son nom aussi fort. Elle s'en ouvrit à une autre femme qui participait aux recherches et elles élaborèrent rapidement un plan. Ensemble, elles commencèrent à marcher entre les rayons de tissu en répétant calmement les mots « Connor, si tu m'entends, dis « Je suis là ». » Comme elles arrivaient lentement vers le fond du magasin en répétant cette phrase, elles entendirent effectivement une petite voix timide dire « Je suis là ». Il était caché entre les rouleaux de tissu sous une table. C'était une voix d'une douceur parfaite qui l'avait encouragée à répondre. Pour parler au cœur d'un enfant, nous devons connaître ses besoins. Si nous prions pour connaître ses besoins, les paroles que nous prononçons peuvent avoir le pouvoir de toucher son cœur. Nos efforts sont amplifiés quand nous recherchons la direction du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit « Exprimez les pensées que je mettrai dans votre cœur, car ce que vous devrez dire vous sera donné sur l'heure, oui, au moment même. » Malheureusement, les distractions de ce monde empêchent beaucoup d'enfants d'entendre les paroles encourageantes qui pourraient façonner leur vision d'eux-mêmes. Neil Halfon, médecin de l'Université de Californie à Los Angeles, qui dirige le Centre pour l'amélioration de la santé des enfants, des familles et des collectivités, parle de négligence parentale bénigne. Une étude a observé un enfant de 18 mois et ses parents. Leur fils semblait heureux et actif, se donnant manifestement du bon temps et savourant sa pizza avec ses enfants. À la fin du dîner, la mère est partie faire une course rapide, confiant l'enfant au père. Le père a commencé à lire des messages sur son téléphone, tandis que l'enfant s'évertuait à attirer son attention en jetant des morceaux de croûte de pizza. Alors le père s'est intéressé de nouveau à son enfant et a joué avec lui. Cependant, il s'est rapidement mis à regarder une vidéo sur son téléphone avec son enfant jusqu'à ce que sa femme revienne. Dans les deux cas, le docteur Halfon a observé une diminution de la lumière intérieure de l'enfant et un affaiblissement du lien entre le parent et l'enfant. La réponse à notre prière pour savoir comment satisfaire les besoins de nos enfants peut être de nous déconnecter plus souvent de la technologie. De précieuses occasions d'interagir et de parler avec nos enfants disparaissent quand nous sommes occupés par des distractions. Pourquoi ne pas choisir un moment chaque jour pour se déconnecter de la technologie et reprendre contact l'un avec l'autre? Il suffit de tout éteindre. Quand vous faites cela, votre foyer peut d'abord vous sembler silencieux. Vous pouvez même ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. Puis, si vous donnez toute votre attention à vos enfants, une conversation pourra s'engager et vous pourrez avoir du plaisir à être à l'écoute l'un de l'autre. Nous pouvons aussi influencer nos enfants par les mots que nous leur écrivons. Néphi écrit, « Nous travaillons diligemment à persuader nos enfants de croire au Christ et d'être réconciliés avec Dieu. » Le président Monson a parlé de l'expérience de Jay Hess, pilote dont l'avion fut abattu au-dessus du Nord-Vietnam dans les années 60. Pendant 2 ans, sa famille a totalement ignoré s'il était mort ou vivant. Ses ravisseurs à Hanoï lui ont finalement permis d'écrire chez lui, mais ont limité son message à moins de 25 mots. Le président Monson demande, « Que dirions-nous, vous et moi, à notre famille, si nous étions dans la même situation, ne l'ayant plus vue depuis plus de 2 ans et ne sachant pas si nous la reverrons jamais ?» Voulant donner à sa famille quelque chose qu'elle pourrait reconnaître comme venant de lui et voulant aussi lui donner un conseil utile, frère S. a écrit ce qui suit. Ces choses sont importantes. Le mariage au temple, la mission, l'université. Allez de l'avant, fixez-vous des objectifs, écrivez votre histoire, faites des photos 2 fois par an. Quels mots écririez-vous à vos enfants si vous n'aviez pas plus de 25 mots? L'homme dont j'ai parlé plus tôt, qui a écrit les souvenirs qu'il avait de son institutrice de deuxième année, est maintenant le jeune père d'une magnifique petite fille. Il ressent la confiance céleste qui a été placée en lui. Quand elle sera grande, quel sera son avenir? Que lui dira-t-il qui pénétrera profondément son cœur? Quelles paroles l'encourageront, l'édifieront et l'aideront à rester sur le chemin? Cela fera-t-il une différence s'il prend le temps de murmurer « Tu es un enfant de Dieu » ? Se souviendra-t-elle un jour que son père lui disait souvent les mots « J'aime tout chez toi » ? N'est-ce pas ce que notre Père Céleste disait à son Fils et à chacun d'entre nous quand il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », à quoi il a ajouté « En qui j'ai mis toute mon affection ». Puissent les paroles que nous prononçons et les mots que nous écrivons à nos enfants refléter l'amour que notre Père Céleste a pour son Fils Jésus-Christ et pour nous. Et puissions-nous prendre le temps d'écouter, car un enfant est vraiment capable de dire des choses grandes et merveilleuses en retour. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter vers Sion, cité promise. Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'entendre L. Whitney Clayton de la présidence des 70. Il sera suivi de L. Tom Perry du Collège des 12 apôtres. Le chœur chantera ensuite C'est l'amour. Vous assistez à la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Un soir, il y a plusieurs années de cela, ma femme et moi étions en visite chez l'un de nos fils, sa femme et ses enfants, pour dîner. C'était une soirée typique pour une famille avec de jeunes enfants. C'était très bruyant et encore plus amusant. Peu après le dîner, Anna, notre petite fille de 4 ans, et moi étions restés assis à table. Comprenant qu'elle avait toute mon attention, elle s'est mise toute droite sur un banc et m'a fixé du regard. Quand elle a été sûre que je la regardais, elle m'a ordonné d'une voix solennelle « Regarde et apprends ». Puis, elle s'est mise à danser et à me chanter une chanson. Cet ordre qu'elle m'a donné, « Regarde et apprends », était la sagesse sortie de la bouche d'une enfant. Nous pouvons apprendre tellement de choses en regardant et en réfléchissant à ce que nous voyons et ressentons. Dans le même esprit, j'aimerais vous parler de quelques principes que j'ai observés en regardant et en tirant des leçons de mariage heureux et stable. Ces principes font des mariages forts et épanouissants, compatibles avec les principes des cieux. Je vous invite à regarder et apprendre avec moi. Premièrement, j'ai observé que dans les mariages les plus heureux, l'homme et la femme considèrent tous deux leur relation comme étant un joyau sans prix, un trésor d'une valeur infinie. Tous deux quittent leur père et leur mère et entreprennent ensemble d'édifier une union qui prospérera pour l'éternité. Ils comprennent qu'ils avancent sur un chemin ordonné par Dieu. Ils savent qu'aucune autre relation d'aucune sorte ne peut procurer autant de joie, engendrer autant de bien ou produire un plus grand raffinement personnel. Regardez et apprenez. Les meilleurs couples considèrent que leur mariage a une valeur inestimable. Ensuite, la foi. La réussite conjugale est bâtie sur le fondement de la foi au Seigneur Jésus-Christ et sur l'adhésion à ses enseignements. J'ai observé que les couples qui font en sorte que leur mariage soit inestimable se livrent aux pratiques de la foi. Ils assistent chaque semaine à la Sainte Cène et aux autres réunions, tiennent la soirée familiale, prient et étudient les Écritures ensemble et individuellement, et payent une dîme complète et honnête. Leur quête commune est d'être obéissant et bon. Ils ne considèrent pas les commandements comme un buffet sur lequel ils ne peuvent choisir que les choses les plus attrayantes. La foi est la fondation de toutes les vertus qui renforcent le mariage. Quand on renforce la foi, on renforce le mariage. La foi grandit quand nous respectons les commandements et il en va de même de l'entente et de la joie dans le mariage. Ainsi, l'obéissance aux commandements est fondamentale dans la création d'un mariage fort. Regardez et apprenez. La foi au Seigneur Jésus-Christ est le fondement d'un mariage éternel et heureux. Troisièmement, le repentir. J'ai appris qu'un mariage heureux s'appuie sur le don du repentir. C'est un élément essentiel à toute bonne relation conjugale. Les conjoints qui se livrent régulièrement à un examen de conscience et font rapidement ce qu'il faut pour se repentir et s'améliorer sentent le baume guérisseur agir dans leur mariage. Le repentir permet de rétablir et de maintenir l'entente et la paix. L'humilité est l'essence du repentir. L'humilité est désintéressée. Elle n'est pas égoïste. Elle ne cherche pas son propre intérêt ni ne parle d'un ton supérieur. Au lieu de cela, l'humilité répond avec douceur et écoute avec gentillesse dans le but de comprendre et non pas de se justifier. L'humilité reconnaît que personne ne peut changer quelqu'un, mais qu'avec la foi, des efforts et l'aide de Dieu, nous pouvons éprouver nous-mêmes un puissant changement de cœur. Un puissant changement de cœur fait que nous traitons notre prochain et en particulier notre conjoint avec douceur. L'humilité signifie que le mari et la femme cherchent à être une bénédiction l'un pour l'autre, à s'aider et à s'édifier mutuellement en mettant l'autre en premier dans chaque décision. Regardez et apprenez. Le repentir et l'humilité édifient les mariages heureux. Quatrièmement, le respect. J'ai remarqué que dans les mariages heureux, le mari et la femme se considèrent comme des partenaires égaux. La pratique, quel qu'en soit le lieu ou l'époque, pour le mari de dominer la femme ou de la traiter d'une façon quelconque en partenaire de second rang dans le mariage, n'est pas en accord avec la loi divine et doit être remplacée par des principes et des pratiques correctes. Le mari et la femme qui ont une union conjugale merveilleuse prennent leurs décisions de façon unanime, chacun étant un participant à part entière et disposant d'une voix et d'un vote égal. Ils se concentrent premièrement sur le foyer et sur l'aide à s'apporter mutuellement dans les responsabilités qu'ils partagent. Leur mariage est basé sur la coopération, pas sur la négociation. Lors du dîner, suivi d'un temps réservé à la famille, devient le point central de leur journée et est l'objet de tous leurs efforts. Ils éteignent les appareils électroniques et renoncent aux loisirs personnels pour participer aux tâches ménagères. Dans la mesure du possible, ils lisent chaque soir avec leurs enfants et tous deux s'occupent de mettre les petits au lit. Ils vont se coucher ensemble. Selon que leurs devoirs et les circonstances le permettent, le mari et la femme travaillent côte à côte dans le travail le plus important qui soit, celui qu'on accomplit au foyer. Là où il y a du respect, il y a aussi de la transparence, qui est un élément clé des mariages heureux. Les conjoints n'ont pas de secret l'un pour l'autre, pour les questions importantes dans les mariages fondés sur le respect et la transparence. Le mari et la femme prennent toutes leurs décisions financières ensemble, et ils ont accès à toutes les informations. La loyauté est une forme de respect. Les prophètes enseignent que les conjoints qui réussissent sont farouchement loyaux l'un à l'autre. Ils veillent à ce que l'utilisation qu'ils font des médias sociaux reste pleinement digne à tout égard. Ils ne s'autorisent aucune expérience secrète sur l'Internet. Ils se communiquent librement leurs mots de passe d'accès aux réseaux sociaux. Ils ne consultent pas le profil virtuel de qui que ce soit, d'une manière qui pourrait trahir la confiance sacrée de leur conjoint. Ils ne font ni ne disent jamais rien qui ressemble de loin à quelque chose d'inconvenant, virtuellement ou physiquement. Regardez et apprenez. Les mariages extraordinaires sont totalement respectueux, transparents et loyaux. Cinquièmement, l'amour. Des mariages les plus heureux qu'il m'ait été donné de voir, il émane l'obéissance à l'un des commandements les plus joyeux, celui de vivre ensemble dans l'amour. S'adressant au mari, le Seigneur a commandé « Tu aimeras ta femme de tout ton cœur et tu t'attacheras à elle et à personne d'autre. » Dans un manuel d'instruction de l'Église, on nous enseigne « Le mot s'attacher signifie être complètement dévoué et fidèle à quelqu'un. Les conjoints s'attachent à Dieu et l'un à l'autre en se servant, en s'aimant, et en respectant leurs alliances dans la fidélité complète l'un envers l'autre et envers Dieu. Le mari et la femme laissent derrière eux leur vie de célibataire et accordent à leur mariage la toute première priorité. Ils ne permettent à aucune autre personne ni à aucun autre intérêt d'avoir la priorité sur le respect des alliances qu'ils ont faites avec Dieu et l'un envers l'autre. Regardez et apprenez. Chez les couples qui réussissent, les conjoints s'aiment en étant complètement dévoués l'un à l'autre. Certaines personnes ne sont pas aussi heureuses dans leur mariage qu'elles le souhaiteraient, ne se sont jamais mariées, sont divorcées, sont des parents seuls, ou pour diverses raisons, ne sont pas en état de se marier. Ces situations peuvent être pleines de difficultés et de déchirements, mais elles ne doivent pas nécessairement être éternelles. Vous qui êtes dans l'une de ces situations et qui néanmoins faites de bon gré tout ce qui est en votre pouvoir pour persévérer, que le ciel vous bénisse abondamment. Poursuivez l'idéal de former un mariage éternel, entre autres en vous efforçant d'être un conjoint digne ou en vous y préparant. Obéissez aux commandements et faites confiance au Seigneur et à son amour parfait pour vous. Un jour, toutes les bénédictions promises concernant le mariage seront vôtres. Un des versets les plus touchants du livre de Mormon indique simplement « Et ils se mariaient et mariaient leurs enfants, et étaient bénis selon la multitude des promesses que le Seigneur leur avait faites ». Les promesses du Seigneur s'adressent à tous les gens qui suivent le modèle de vie qui permet de bâtir des relations conjugales heureuses et saintes. Ces bénédictions sont la conséquence heureuse et prévisible de la fidélité à l'Évangile de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant à ma merveilleuse femme Cathy, qui est l'amour de ma vie. Le mariage est un don de Dieu qu'il nous fait. La qualité de notre mariage est un don que nous lui faisons. Je rends témoignage du plan merveilleux d'un Père Céleste aimant qui nous donne la possibilité d'avoir un mariage éternel et merveilleux au nom de Jésus-Christ. Amen.
À Noël, l'an dernier, j'ai reçu un cadeau spécial qui m'a rappelé de nombreux souvenirs. C'est ma nièce qui me l'a donné. Il se trouvait parmi les objets que j'avais laissés dans notre vieille maison familiale quand j'ai déménagé après mon mariage. Le cadeau est ce petit livre marron que j'ai là. C'est un livre qu'on donnait aux soldats mormons pendant la Deuxième Guerre mondiale quand ils entraient dans les forces armées. Personnellement, je considérais ce livre comme un cadeau du président Grant et de ses conseillers, Jeroboam Clark fils et David O. McKay. Dans un message au début du livre, ces trois prophètes avaient écrit, je cite, « Votre départ pour le service armé ne nous permet pas de rester en contact permanent avec vous personnellement, que ce soit directement ou par représentation personnelle. Alors le mieux que nous puissions faire, c'est de mettre entre vos mains les passages de la révélation moderne, l'explication des principes de l'Évangile, qui pourront vous apporter, où vous soyez, une espérance et une foi renouvelée, ainsi que du réconfort, de la consolation et la paix de l'esprit. Aujourd'hui, nous vivons une autre guerre mondiale. Cette fois, elle ne se fait pas avec des armes, elle se fait avec des pensées, des paroles, des actes. C'est une guerre contre le péché. Et plus que jamais, nous avons besoin qu'on nous rappelle que nous devons observer les commandements. La sécularisation est en train de devenir la norme, et un grand nombre de nos croyances, de ces croyances et pratiques sont en conflit direct avec celles instituées par le Seigneur lui-même pour le bénéfice de ses enfants. Dans le petit livre marron, juste après le message de la première présidence, il y a un préambule adressé aux hommes sous les drapeaux, intitulé « L'obéissance à la loi, c'est la liberté ». Ce préambule fait le parallèle entre les lois militaires qui sont pour le bien de tous ceux qui sont sous les drapeaux et les lois divines. Le préambule déclare, dans l'univers aussi, où Dieu est aux commandes, il y a des lois universelles éternelles, avec certaines bénédictions et des châtiments immuables. Les derniers mots du préambule insistent sur l'obéissance aux lois de Dieu. Si vous désirez rentrer auprès des vôtres, la tête haute, si vous voulez être un homme et vivre abondamment, alors observez les lois de Dieu. Ainsi, vous pourrez ajouter à ces précieuses libertés pour la défense desquelles vous vous battez. Une autre dont elle pourrait très bien dépendre, la liberté par rapport au péché. Car en vérité, l'obéissance à la loi, c'est la liberté. Pourquoi l'expression « l'obéissance à la loi, c'est la liberté » me sembla-t-elle si juste à l'époque? Pourquoi nous semble-t-elle si juste maintenant? Peut-être parce que notre passé prémortel nous a été révélé. Nous avons connaissance qu'au début des temps, quand Dieu le Père éternel nous a présenté son plan, Satan a voulu l'altérer. Il a dit qu'il allait racheter toute l'humanité. Pas une âme ne serait perdue. Et Satan était certain de pouvoir mener à bien ce qu'il proposait. Mais il y avait une contrepartie inacceptable. La destruction du libre arbitre de l'homme, qui était et reste un don de Dieu. Le président Harold Billy a dit au sujet de ce don, « Après la vie elle-même, le libre arbitre est le plus grand don de Dieu à l'humanité. » Par conséquent, ce n'était pas rien Ce projet de Satan de ne pas respecter le libre arbitre de l'homme. En fait, cela devint la cause principale de la guerre dans les cieux. La victoire dans cette guerre dans les cieux était une victoire pour le libre arbitre de l'homme. Néanmoins, Satan n'avait pas fini. Son plan de secours, celui qu'il applique depuis l'époque d'Adam et Ève, consistait à tenter les hommes et les femmes, essentiellement pour prouver que nous étions indignes de ce don du libre arbitre que Dieu nous a accordé. Satan fait ce qu'il fait pour plusieurs raisons. La plus forte étant peut-être le désir de vengeance. Mais il veut aussi rendre les hommes et les femmes malheureux, comme lui-même est malheureux. Aucun d'entre nous ne devrait jamais sous-estimer à quel point Satan est déterminé à réussir. Son rôle dans le plan éternel de Dieu suscite opposition en toutes choses et met notre libre arbitre à l'épreuve. Chaque fois que vous et moi faisons est une mise à l'épreuve de notre libre arbitre. Choisir entre l'obéissance ou la désobéissance au commandement de Dieu, c'est en fait choisir entre la liberté et la vie éternelle et la captivité et la mort. Ce point de doctrine fondamentale est clairement enseigné dans 2 Néphi 2:27. C'est pourquoi les hommes sont libres selon la chair, et tout ce qui est nécessaire à l'homme leur est donné. Et ils sont libres de choisir la liberté et la vie éternelle par l'intermédiaire du grand médiateur de tous les hommes, ou de choisir la captivité et la mort, selon la captivité et le pouvoir du diable. Car il cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. À bien des égards, ce monde a toujours été en guerre. Je crois que quand la première présidence m'envoya mon petit livre marron, elle s'inquiétait davantage d'une guerre bien plus grande que la Deuxième Guerre mondiale. Je crois aussi qu'elle espérait que le livre serait un bouclier de foi contre Satan et ses armées dans cette guerre plus grande, la guerre contre le péché, et servirait à me rappeler de vivre les commandements de Dieu. Une façon de nous évaluer et de nous comparer aux générations précédentes, c'est de le faire par rapport à l'une des plus vieilles échelles de valeur, les 10 commandements. Pour une grande partie du monde civilisé, particulièrement pour le monde judéo-chrétien, les 10 commandements ont été et sont la ligne de partage la plus acceptée et la plus durable entre le bien et le mal. Selon moi, 4 des 10 commandements sont toujours autant pris au sérieux aujourd'hui. Culturellement, nous méprisons et condamnons le meurtre, le vol et le mensonge. Et nous croyons toujours que les enfants ont une responsabilité envers leurs parents. Mais la société, dans son ensemble, rejette systématiquement les 6 autres commandements. Si l'on en croit les priorités du monde, nous avons certainement d'autres dieux que nous plaçons devant le vrai Dieu. Nous idolâtrons les célébrités, des modes de vie, la richesse et, eh bien oui, parfois des images ou des objets taillés. Nous profanons le nom de Dieu de bien des manières, en employant notamment nos exclamations et nos jurons. Nous utilisons le jour du sabbat pour nos plus grandes rencontres sportives, nos plus importants loisirs, nos grosses courses, et pour quasiment tout, sauf le culte. Nous considérons les relations sexuelles en mariage comme une distraction et un passe-temps. Et la convoitise est devenue un mode de vie beaucoup trop répandu. Les prophètes de toutes les dispensations ont constamment lancé des mises en garde au sujet de 2 des commandements les plus importants, ceux liés au meurtre et à l'adultère. Je vois un fondement commun à ces 2 commandements essentiels, la croyance que la vie elle-même est la prérogative de Dieu. Et notre corps physique, le temple de la condition mortelle, doit être créé dans les limites définies par Dieu. C'est de la part de l'homme le comble de l'arrogance et du péché que de substituer ses propres règles ou lois de Dieu à l'une ou à l'autre des extrémités de la vie. Les principaux effets de ces attitudes dévalorisantes envers la sainteté du mariage sont les conséquences sur la famille. La force de la famille se détériore à un rythme alarmant. Et cette détérioration cause des dégâts qui touchent toute la société. J'y vois un lien direct de cause à effet. Quand nous abandonnons notre engagement et notre fidélité à notre conjoint, nous retirons le ciment qui maintient la société. Il serait utile de voir les commandements comme les conseils aimants d'un Père céleste, sage et omniscient. Son objectif est notre bonheur éternel. Et ses commandements sont la carte qu'il nous a donnée pour retourner à lui, qui est la seule façon d'être heureux éternellement. Quelle importance ont le foyer et la famille dans notre bonheur éternel? À la page 141 de mon petit livre marron, il est écrit: notre ciel n'est en fait pas tellement plus qu'une projection de notre foyer dans l'éternité. La doctrine de la famille et de foyer a été répétée plus récemment avec grande clarté et puissance dans la famille Déclaration au monde. Elle a déclaré la nature éternelle de la famille, puis expliqué la relation avec le culte au temple. La proclamation déclarait aussi la loi sur laquelle le bonheur éternel de la famille repose, à savoir, les pouvoirs sacrés de procréation doivent être employés qu'entre l'homme et la femme légitimement mariés. Dieu révèle à ses prophètes qu'il y a des absolus en termes de moralité. Le péché sera toujours le péché. La désobéissance au commandement du Seigneur nous privera toujours de ses bénédictions. Le monde change en permanence et de façon spectaculaire, mais Dieu, ses commandements et les bénédictions qu'il a promises ne changent pas. Ils sont immuables et constants. Dieu offre libre arbitre aux hommes et aux femmes, mais leur liberté, et par la suite leur bonheur éternel, découle de l'obéissance à ses commandements. Comme le dit Alma à son fils égaré, Corianton, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. À notre époque, la plénitude de l'Évangile a été rétablie. Le Seigneur nous a à nouveau révélé les bénédictions promises aux gens qui obéissent à ses commandements. Dans Doctrine et Alliance, on lit, à section 133, il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle cette loi repose. Assurément, il ne pourrait y avoir de point de doctrine exprimé avec plus de puissance que le caractère immuable des commandements du Seigneur et leur lien avec notre bonheur et notre bien-être en tant que personnes, familles et sociétés. Il y a des absolus en termes de moralité. La désobéissance aux commandements du Seigneur nous privera toujours de ses bénédictions. Ces choses ne changent pas. Dans un monde où la boussole morale de la société vacille, l'évangile de Jésus-Christ rétabli n'hésite jamais. Pas plus que ses pieux, ses paroisses, ses familles ou ses membres. Nous ne devons pas faire un tri dans les commandements et choisir ce que nous pensons important à observer. Mais nous devons accepter tous les commandements de Dieu. Nous devons rester fermes et inébranlables, ayant une parfaite assurance de la constance du Seigneur et une parfaite confiance en ses promesses. Puissions-nous toujours être une lumière sur la colline, un exemple de respect de commandements qui n'ont jamais changé et ne changeront jamais. De la même façon que ce petit livre a encouragé les soldats mormons à rester moralement fermes en temps de guerre, puissions-nous, dans ces derniers jours, être un modèle un phare pour toute la terre, et particulièrement pour les enfants de Dieu qui recherchent la bénédiction du Seigneur. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Nous remercions le chœur du Tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le dernier orateur de cette session sera Thomas S. Monson, notre prophète. Après son discours, le chœur chantera « Venez, venez, sans craindre le devoir ». Ensuite, O. Vincent Halleck, des 70, fera la prière de clôture.
My beloved brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs bien-aimés, combien je suis reconnaissant d'être avec vous ce matin. Je vous demande d'exercer votre foi et de prier pour moi pendant que je m'adresse à vous. Au fil des siècles, les hommes et les femmes ont recherché la connaissance et la compréhension concernant cette existence mortelle et leur place et leur raison d'être dans tout cela, ainsi que le chemin qui mène à la paix et au bonheur. C'est le genre de recherche que chacun de nous entreprend. Cette connaissance et cette compréhension sont accessibles à toute l'humanité. Elles sont contenues dans des vérités qui sont éternelles. Dans les Doctrines et Alliances, section 1, verset 39, nous lisons « Car voici, le Seigneur est Dieu, et l'Esprit rend témoignage, et le témoignage est vrai, et la vérité demeure pour toujours et à jamais. » Le poète a écrit « La terre et le ciel passeront promptement, mais la vérité, triomphalement, sera seule à régner désormais. » Certains demanderont « Où se trouve une telle vérité et comment pouvons-nous la reconnaître ?» Dans une révélation donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, à Kirtland, en Ohio, en mai 1833, le Seigneur déclare « La vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles seront à venir. L'Esprit de vérité est de Dieu, et nul ne reçoit une plénitude s'il ne garde les commandements. » Celui qui garde les commandements de Dieu reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans la vérité et connaisse tout. Quelle promesse merveilleuse ! Celui qui garde les commandements de Dieu reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans la vérité et connaisse tout. Il n'est pas nécessaire que vous et moi, en cet âge de lumière où la plénitude de l'Évangile a été rétablie, voguions sur des mers inconnues ou voyagions sur des routes non balisées en quête de vérité. Un Père céleste aimant a tracé notre chemin et fourni un guide indéfectible, à savoir l'obéissance. La connaissance de la vérité et la réponse à nos plus grandes questions nous sont données lorsque nous sommes obéissants au commandement de Dieu. Nous apprenons l'obéissance durant toute notre vie. Dès notre très jeune âge, les personnes responsables de nous fixent des directives et des règles pour nous assurer notre sécurité. La vie serait plus simple pour nous si nous obéissions totalement à ces règles. Cependant, beaucoup d'entre nous apprennent par expérience la sagesse qu'il y a à être obéissant. Lorsque j'étais enfant, chaque été, du début juillet au début septembre, ma famille séjournait dans notre chalet à Vivian Park, dans le canyon de Provo, en Utah. L'un de mes meilleurs amis à cette époque d'insouciance dans le canyon était Danny Larsen, dont la famille était aussi propriétaire d'un chalet à Vivian Park. Chaque jour, lui et moi vagabondions dans ce paradis pour gamins, pêchant dans le ruisseau et dans la rivière, collectionnant des cailloux et d'autres trésors, faisant de la randonnée, de l'escalade et profitant tout simplement de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée. Un matin, Danny et moi avons décidé de faire un feu de camp ce soir-là avec tous nos amis du canyon. Il suffisait que nous dégagions un endroit dans un champ voisin où nous pourrions tous nous rassembler. L'herbe de juin qui couvrait le champ était devenue sèche et piquante, de sorte que le champ ne convenait pas pour ce que nous voulions faire. Nous avons commencé à arracher les hautes herbes dans le but de dégager un vaste espace circulaire. Nous avons tiré et secoué de toutes nos forces, mais tout ce que nous obtenions, c'était de petites poignées de ces herbes sauvages, tenaces. Nous savions que cette tâche prendrait toute la journée, et déjà notre énergie et notre enthousiasme commençaient à décliner. Et alors, ce que je pensais être la solution parfaite m'est venu à mon esprit de 8 ans. J'ai dit à Danny, il suffit de brûler ces herbes sauvages. On va juste brûler un cercle dans l'herbe. Il a accepté sans hésiter. Et j'ai couru chez nous chercher quelques allumettes. Au cas où certains d'entre vous penseraient qu'au jeune âge de 8 ans, nous avions la permission d'utiliser des allumettes, je veux qu'il soit clair qu'il nous était interdit à Danny et à moi de les utiliser sans la surveillance d'un adulte. Nous avions tous les deux été mis en garde à maintes reprises contre les dangers du feu. Cependant, je savais où ma famille rangeait les allumettes, et nous avions besoin de dégager ce champ. Sans même y réfléchir à 2 fois, j'ai couru chez nous, j'ai attrapé quelques allumettes, en m'assurant que personne ne regardait, je me suis dépêché de les dissimuler dans l'une de mes poches. J'ai couru rejoindre Danny, heureux d'avoir dans la poche la solution à notre problème. Je me souviens avoir pensé que le feu ne brûlerait que la surface que nous voulions, et qu'ensuite, d'une manière ou d'une autre, il s'éteindrait comme par magie. J'ai frotté une allumette sur une pierre, et j'ai mis le feu à l'herbe desséchée de juin. Elle a flambé comme si elle était saturée d'essence. Au début, Danny et moi étions ravis de voir l'herbe disparaître. Mais il est vite devenu évident qu'il n'y avait aucune chance que le feu s'éteigne tout seul. Nous avons paniqué lorsque nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions rien faire pour l'arrêter. Les flammes menaçantes ont commencé à brûler l'herbe sauvage en remontant le flanc de la montagne, mettant en danger les pins et tout ce qui se trouvait sur leur passage. Finalement, il ne nous restait plus qu'à courir chercher de l'aide. Bientôt, tous les hommes et toutes les femmes disponibles de Vivian Park ont couru dans tous les sens, munis de sacs de toile et de jute mouillée, et se sont mis à battre les flammes pour tenter de les éteindre. Au bout de plusieurs heures, les dernières braises étaient étouffées. Les pins millénaires avaient été sauvés, ainsi que les maisons que les flammes auraient fini par atteindre. Danny et moi avons appris plusieurs leçons difficiles mais importantes ce jour-là. Dont la moindre n'était pas l'importance de l'obéissance. Il existe des règles et des lois qui assurent notre sécurité physique. De même, le Seigneur a donné des directives et des commandements pour assurer notre sécurité spirituelle, afin que nous réussissions à nous frayer un chemin dans cette existence mortelle souvent dangereuse et retournions un jour auprès de notre Père céleste. Il y a des siècles, Samuel a hardiment déclaré à une génération imprégnée de la tradition des sacrifices d'animaux « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Dans cette dispensation, le Seigneur a révélé à Joseph Smith le prophète qu'il exigeait le cœur et un esprit bien disposés. Il a ajouté, Et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion en ces derniers jours. Tous les prophètes, anciens et modernes, ont su que l'obéissance est indispensable à notre salut. Néphi déclare, « J'irai, et je ferai la chose que le Seigneur a commandée. » Bien que d'autres aient faibli dans leur foi et dans leur obéissance, Néphi n'a pas une seule fois manqué de faire ce que le Seigneur lui avait commandé. D'innombrables générations ont été bénies en conséquence. Un récit émouvant d'obéissance est celui d'Abraham et Isaac. Combien il a dû être douloureux et difficile à Abraham, par obéissance au commandement de Dieu, d'emmener Isaac, son fils bien-aimé, au pays de Morija pour l'offrir en sacrifice. Pouvons-nous imaginer la tristesse d'Abraham alors qu'il se rendait à l'endroit indiqué? L'angoisse devait certainement étreindre son corps et torturer son esprit pendant qu'il liait Isaac, l'allongeait sur l'autel et prenait le couteau pour le tuer. Avec une foi inébranlable et une confiance absolue, il a obéi au commandement du Seigneur. Comme la phrase qu'il a entendue a dû lui paraître magnifique, et avec quel émerveillement il a dû l'accueillir, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham a été mis à l'épreuve, et pour sa fidélité et son obéissance, le Seigneur lui a fait cette magnifique promesse. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Bien qu'il ne nous soit pas demandé de prouver notre obéissance d'une manière aussi spectaculaire et déchirante, l'obéissance est exigée de nous aussi. Joseph F. Smith, en octobre 1873, a déclaré « L'obéissance est la première loi des cieux ». Le président Hinckley a dit « Le bonheur des saints des derniers jours, la paix des saints des derniers jours, la progression des saints des derniers jours, la prospérité des saints des derniers jours et le salut et l'exaltation éternelle de ce peuple réside dans ce qu'il marche dans l'obéissance à Dieu. L'obéissance est la caractéristique principale des prophètes. Elle leur a fourni la force et la connaissance au fil des siècles. Il est indispensable que nous prenions conscience que nous aussi, nous avons droit à cette source de force et de connaissance. Il est facilement accessible à chacun de nous aujourd'hui si nous obéissons au commandement de Dieu. Au fil des années, j'ai connu un nombre incalculable de personnes qui ont été particulièrement fidèles et obéissantes. J'ai été béni et inspiré par elles. Je vais vous relater l'histoire de deux de ces personnes. Walter Krause était un membre de l'Église ferme qui, avec sa famille, habitait dans ce qui est devenu l'Allemagne de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. En dépit des difficultés qu'il rencontrait à cause du manque de liberté dans cette région du monde à l'époque, frère Krause était un homme qui aimait et servait le Seigneur. Il s'acquittait fidèlement et consciencieusement de chaque tâche qui lui était confiée. L'autre homme, Johann Dendorfer, originaire de Hongrie, s'était converti à l'Église en Allemagne et s'y était fait baptiser en 1911, à l'âge de 17 ans. Peu de temps après, il était reparti en Hongrie. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'était retrouvé quasiment prisonnier dans son pays natal, dans la ville de Debrecen. La liberté avait aussi été ôtée au peuple de Hongrie. Frère Walter Krause, qui ne connaissait pas frère Dendorfer, avait reçu la responsabilité d'être son instructeur au foyer et de lui rendre régulièrement visite. Frère Krause a appelé son compagnon d'enseignement au foyer et lui a dit « Nous avons reçu la tâche de rendre visite à frère Johann Dendorfer. Serais-tu disponible cette semaine pour aller le voir avec moi et lui apporter un message de l'Évangile ?» Il ajouta ensuite « Frère Dendorfer habite en Hongrie. » Très surpris, son compagnon a demandé « Quand partons-nous ?»« Demain, » a répondu frère Krause. « Quand reviendrons-nous chez nous ?» a demandé le compagnon. Frère Krause a répondu « Oh, dans une semaine environ, si l'on arrive à rentrer. » Les deux instructeurs au foyer sont partis rendre visite à frère Dendorfer, voyageant en train et en bus dans la région nord-est de l'Allemagne jusqu'à Debrecen en Hongrie. Un long voyage. Frère Dendorfer n'avait pas reçu de visiteurs au foyer depuis avant la guerre. Alors, quand il a vu ses serviteurs du Seigneur, il a été éperdu de reconnaissance qu'ils soient venus. Il a d'abord refusé de leur serrer la main. Au lieu de cela, il est allé dans sa chambre et a pris dans une petite armoire une boîte contenant sa dîme qu'il avait conservée depuis des années. Il a remis la dîme à ses instructeurs au foyer et a dit « Maintenant, je suis en règle avec le Seigneur. Maintenant, je me sens digne de serrer la main des serviteurs du Seigneur. » Frère Krause m'a raconté plus tard qu'il avait été profondément touché que ce frère fidèle, qui n'avait aucun contact avec l'Église depuis plusieurs années, ait docilement et systématiquement retiré de ses maigres revenus 10% avec lesquels payer sa dîme. Il l'avait conservé, ne sachant pas quand, ni s'il aurait un jour la bénédiction de la payer. Frère Walter Krause est décédé il y a 9 ans, à l'âge de 94 ans. Il a servi fidèlement et docilement tout au long de sa vie et a été une source d'inspiration pour moi et pour toutes les personnes qui l'ont connu. Lorsqu'on lui demandait d'accomplir une tâche, il ne doutait jamais, il ne murmurait jamais, il n'invoquait jamais d'excuses. Mes frères et sœurs, le grand test de la vie et l'obéissance. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve, dit le Seigneur, pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur commandera. Le Sauveur a déclaré, « Car tous ceux qui veulent avoir une bénédiction de moi respecteront la loi qui a été désignée pour cette bénédiction et ses conditions qui ont été instituées dès avant la fondation du monde. » Il n'existe pas de plus grand exemple d'obéissance que celui de notre Sauveur. Paul a fait cette réflexion à son sujet. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le Sauveur a manifesté un amour sincère pour Dieu en menant une vie parfaite, en honorant la mission sacrée qui était la sienne. Jamais il n'était hautain, jamais il n'était enflé d'orgueil, jamais il n'était déloyal. Il était toujours humble, il était toujours sincère, il était toujours obéissant. Bien comme né par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le maître de la supercherie, le diable, bien qu'affaibli physiquement par un jeûne de 40 jours et de 40 nuits et bien qu'affamé, lorsque le malin lui a fait les propositions les plus attrayantes et les plus tentantes, il nous a donné un exemple divin d'obéissance en refusant de dévier de ce qu'ils savaient être juste. Face à l'atroce souffrance de Gethsémané, où il a subi une douleur telle que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre, il a montré l'exemple du Fils obéissant en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Comme il l'a demandé à ses premiers apôtres, le Sauveur nous le demande à vous et à moi. Toi, suis-moi. Sommes-nous disposés à obéir? La connaissance que nous recherchons, les réponses auxquelles nous aspirons ardemment et la force que nous désirons aujourd'hui pour affronter les difficultés d'un monde complexe et changeant peuvent être nôtres si nous sommes disposés à obéir au commandement de Dieu. Je cite à nouveau les paroles du Seigneur. Celui qui garde les commandements de Dieu reçoit la vérité et la lumière jusqu'à ce qu'il soit glorifié dans la vérité et connaisse tout. C'est mon humble prière que nous puissions recevoir les grandes récompenses promises à ceux qui sont obéissants. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
cher Père Céleste, à la fin de cette session de ta conférence générale, en cette belle journée de printemps, matinée de printemps, nous te remercions humblement de ton amour qui s'est exprimé si bien ce matin par tes disciples. Elle était rendue manifeste par de magnifiques messages que tu as inspirés tes serviteurs à nous donner. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants. Nous avons été édifiés, encouragés par ta parole. Tout le monde au Père maintenant de nous bénir sur le chemin du retour, nous accorder la foi, d'obéir et d'écouter les paroles que nous avons entendues ce matin. Que nous les intégrions à notre cœur, à notre esprit, que nous puissions les mettre en pratique et apporter les changements à notre vie que nous devons faire pour nous rapprocher de toi. Et comme tu nous l'as dit, que nous fassions les choses que nous avons vu faire. Nous te demandons ces bénédictions, Père, avec reconnaissance pour les prophètes, voyants et révélateurs qui sont parmi nous et que nous bénissent tant par les messages et ce qu'ils nous disent, ce que nous devons faire pour nous rapprocher de toi. Puissions-nous vivre dignes des bénédictions que tu as pour nous, Père. Nous sommes reconnaissants du sacrifice de ton Fils pour nous. Que tes bénédictions soient avec nous, Père, à la fin de cette réunion. Et permets-nous de revenir pour la prochaine session. Au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ, Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Annual General Conference.
Vous venez d'assister à une session de la 183e Conférence Générale d'Avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.